Il est 18h à Séoul, 10h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI, c'est l'heure d'un nouveau journal.
Alban Le Prince.
Et à la une, trouver une solution pour les Kurdes, l'un des sujets brûlants mis sur la table hier par les ministres des Affaires étrangères français et allemands en visite à Damas, en Syrie. Première rencontre à ce niveau entre le nouveau dirigeant et les responsables de puissances occidentales. On y revient dans un instant. Des milliers de Sud-Coréens appelés à manifester aujourd'hui au lendemain de la tentative ratée d'interpeller Yoon Suk-yeol, le président déchu. Le service de sécurité présidentielle a empêché les enquêteurs de l'emmener avec eux. Qui sont-ils? Éléments de réponse dans ce journal. Au sommaire aussi, les proches d'Ibrahim Nabi Togola, toujours sans nouvelles de lui, une semaine après l'enlèvement de l'opposant malien à Bamako. Et puis, elle s'appelle Goldman Sachs, Bank of America ou encore Citigroup. Les banques américaines se retirent les unes après les autres de l'Alliance mondiale des banques pour le climat. Explication à suivre. En Syrie, les ministres français et allemands des Affaires étrangères ont plaidé hier pour un transfert de pouvoir inclusif et pacifique, une réconciliation et la reconstruction. Déclaration après leur rencontre à Damas avec Ahmed al-Shara, le nouveau dirigeant de la Syrie, que l'on connaissait jusqu'ici sous son nom de guerre, Abou Mohamed al-Jolani. Première réunion à ce niveau avec des responsables des grandes puissances occidentales un mois après la chute de Bachar al-Assad. De nombreux sujets ont été mis sur la table par Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock, comme la nécessité de trouver une solution politique avec la minorité kurde de Syrie. Les précisions pour RFI de Nicolas Roca.
Dissoudre toutes les factions armées, dont HTS, pour les unir sous la bannière de l'armée syrienne. Ahmad al-Shara a promis d'unifier tout le pays, mais l'accord d'intégration des groupes armés ne concerne pas pour l'instant les forces démocratiques syriennes, ou FDS, dominées par les Kurdes et qui tiennent une grande partie du nord-est de la Syrie, une région où les bombardements des groupes rebelles alliés de la Turquie se poursuivent. Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec le chef des FDS avant de se rendre à Damas, où il s'est exprimé ce vendredi.
Les armes doivent se taire dans le nord du pays. C'est pourquoi une solution politique doit être trouvée avec les alliés de la France que sont les Kurdes pour qu'ils soient pleinement intégrés dans ce processus politique qui s'engage aujourd'hui. Et le cessez-le-feu doit être durable et pérenne.
Même son de cloche du côté d'Annalena Baerbock, chef de la diplomatie allemande.
L'implication de tous les groupes dans le processus politique est essentielle, comme l'est la sécurité des Kurdes. Cela nécessite la fin des combats dans le nord, de sérieuses garanties de sécurité pour les Kurdes, ainsi que l'intégration des forces kurdes.
Des négociations ont débuté cette semaine entre le nouveau pouvoir à Damas et des représentants des forces kurdes, sans déboucher sur des annonces concrètes pour l'instant.
Nicolas Roca est toujours au Proche-Orient. Le Hamas a officialisé hier la reprise des pourparlers avec Israël en vue d'une trêve et de la libération des otages. Annonce qui n'a pas été confirmée par l'État hébreu alors qu'une trentaine de personnes ont été tuées dans la journée dans des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, selon la défense civile. Un raid dans un camp de réfugiés de Naplouse en Cisjordanie occupé a aussi fait un mort et 9 blessés, dont 4 graves. Bilan réévalué ce matin par les autorités palestiniennes. En Corée du Sud, ils sont des milliers à battre le pavé, certains pour dénoncer, d'autres pour soutenir Yoon Suk-yeol, le président déchu, visé par un mandat d'arrêt pour rébellion, un mois après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Hier matin, les enquêteurs qui ont fait face au service de sécurité présidentielle n'ont pas réussi à l'arrêter. Une plainte pour entrave à la justice a d'ailleurs été déposée par l'opposition démocrate contre le chef de cette garde rapprochée, composée de policiers, militaires et agents de services de renseignement qui lui restent très fidèles, Carlotta Morteo.
Le service de sécurité présidentielle était jusqu'à il y a peu dirigé par Kim Yong-hyun, un ami d'enfance du président déchu, devenu ensuite son ministre de la Défense et qui est actuellement en prison pour son rôle d'instigateur dans le fiasco qu'a été la promulgation de la loi martiale début décembre. Créée en 1963, la garde rapprochée du président était au sommet de son pouvoir sous les différents régimes militaires, notamment celui de Park Chung-hee. Elle a perdu quelques prérogatives au cours du processus de démocratisation, même si aujourd'hui, la loi sur la sécurité présidentielle lui accorde toujours des pouvoirs considérables. Selon un journal coréen, une autre unité composée de militaires était également en première ligne pour repousser les enquêteurs. Le commandement de la défense de la capitale, qui a habituellement pour mission de de protéger Séoul d'une incursion nord-coréenne aurait été chargé par l'ex-ministre de la Défense, toujours lui, avant qu'il ne soit emprisonné, de surveiller le périmètre de la résidence présidentielle, écartant ainsi la police qui joue traditionnellement cette fonction. La police, qui dans cette affaire a pris le parti des enquêteurs et de la justice.
Carlotta Morteo, c'est donc dans un pays en plein chaos politique qu'Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, est attendu lundi. Première étape de sa probable dernière tournée diplomatique. Il se rendra également au Japon mardi, alors que Joe Biden a bloqué hier le rachat de US Steel par le géant japonais Nippon Steel. Dernière étape de son voyage, la France pour parler, selon le communiqué du département d'État de la guerre en Ukraine et des crises au Moyen-Orient. Il revendique la victoire de la présidentielle depuis le mois de juillet face à Nicolas Maduro, l'opposant vénézuélien Edmundo González Urrutia, qui a promis de rentrer le 10 janvier pour son investiture, donne aujourd'hui le coup d'envoi de sa tournée latino-américaine avec une première étape en Argentine pour rencontrer le président Javier Milei. Une visite alors que les autorités vénézuéliennes ont annoncé offrir 100 000 dollars pour toute information qui permettrait de l'arrêter. Il est 9h06 à Bamako, au Mali. Une semaine après l'enlèvement d'Ibrahim Nabi Togola par des hommes armés en civil, toujours pas de nouvelles du président du parti d'opposition Nouvelle Vision pour le Mali. Ses proches, inquiets, pensent qu'il est aux mains des services de la sécurité de l'État. Les explications de David Bachet.
Ils ont continué de chercher, en vain, à la brigade d'investigation judiciaire, dans les commissariats proches du lieu de son enlèvement. Ibrahim Nabi Togola demeure introuvable. Il y a une semaine, les hommes armés, sans uniforme ni mandat, qu'il avait embarqué de force dans un 4x4 noir aux vitres teintées, avaient assuré être des gendarmes. Mais Ibrahim Nabi Togola n'a été placé en garde à vue nulle part. Parce que la méthode est devenue tristement habituelle, ses proches tiennent pour acquis qu'Ibrahim Nabi Togola est détenu dans une prison secrète de la sécurité d'État. Président du parti NVPM, membre de la coalition Jigiyakura qui prône le retour à l'ordre constitutionnel, il avait pour projet de lancer un nouveau mouvement d'opposition. Un avocat vient d'être engagé pour entamer des démarches officielles, même si, à ce stade, le cas d'Ibrahim Nabi Togola échappe à tout cadre judiciaire. Au moment où les autorités de transition prônent le dialogue et l'apaisement, s'indigne l'un de ses camarades politiques, on ne comprend pas que des chefs politiques soient maltraités, enlevés illégalement. Les proches d'Ibrahim Nabi Togola commencent l'année 2025 la peur au ventre pour sa sécurité, ses conditions de détention et sa santé. À destination de ses geôliers, son entourage indique qu'Ibrahim Nabi Togola souffre de diabète et d'hypertension.
David Bachet. C'est une tradition à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance de la Birmanie ou des fêtes bouddhistes. La junte birmane a annoncé ce matin l'amnistie de près de 6000 prisonniers, dont 180 étrangers. 144 condamnés à la prison à vie vont quant à eux voir leur peine commuée à 15 ans d'emprisonnement. Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America ou encore Goldman Sachs aux États-Unis. Les grandes banques se retirent une à une de la Net Zero Banking Alliance, une alliance mondiale des banques pour le climat mise en place en 2021 à la COP26 de Glasgow. Alors comment expliquer de telles défections ? Élément de réponse avec Pauline Glaise.
Morgan Stanley n'a pas justifié son retrait, mais pour Éric Delannoy, président de Tenzing Conseil et spécialiste des banques, l'explication, c'est le retour de Donald Trump au pouvoir.
Faire du profit pour les banques aujourd'hui, c'est se mettre derrière la roue de Donald Trump. Il ne faut jamais oublier que ces grandes banques-là n'ont jamais été aussi florissantes que pendant la mandature de Donald Trump, avec une grande vague de dérégulation. C'est du pragmatisme économique. Les banques n'ont bien évidemment pas renoncé à faire du profit et n'ont pas intégré qu'à moyen terme, elles y perdront.
En novembre, des gestionnaires d'actifs ont par ailleurs été attaqués en justice par une dizaine d'États républicains, Texas en tête. Il les accuse d'activisme climatique et d'essayer de réduire la production de charbon, alors qu'ils y ont pourtant des investissements.
Quand vous avez une alliance qui promeut d'arrêter le financement des nouveaux gisements et donc le développement des entreprises à énergie fossile, vous avez des avocats de ces entreprises-là qui disent « Attendez, il y a une entente pour faire en sorte d'enfreindre les règles de la concurrence. » À ce titre-là, c'est attaquable juridiquement. Bon, je pense que c'est un risque qui est plutôt fumeux.
Mais cela pourrait servir de prétexte. De son côté, le président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, favorable au pétrole, juge que les banques réagissent aux besoins du marché. En tout cas, c'est promis. Les établissements qui ont quitté l'Alliance assurent continuer malgré tout leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les États-Unis, où dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump, accusé de paiement dissimulé, connaîtra sa peine vendredi prochain, le 10 janvier, c'est-à-dire 10 jours avant son retour à la Maison-Blanche. Une attaque politique illégitime, dénonce le président élu, qui ne devrait cependant pas aller en prison, d'après le juge du tribunal de Manhattan. Il est 10h10 à Paris, 4h10 à New York, 9h10 en temps universel. Vous écoutez RFI.